Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc ensemble pour nos lectures en liberté en ce temps de confinement et nous allons retrouver le texte de Yves Elewet, Falroun. En ce temps-là, Eliezer Falroun, encore qu'il n'en convienne aujourd'hui qu'avec la plus extrême mauvaise grâce, était un bel enfant malingre, à l'œil cerné par d'innombrables cérémonies onanistes perpétrées dans la solitude de l'alcôve. Là, flottait confusément l'odeur de vieilles choses. Odeur de vieilles choses propres. Étoffe des rideaux, jamais fermée non plus que les persiennes, ce qui permettait de voir dans les nuits de lune la danse des noctuelles contre la vitre claire. Cire, eau de Cologne. Odeur de la grosse savonnette bleue adhérant au marbre de la table par sa surface intérieure, toujours humide et un peu pâteuse. Eliezer se rappelle fort bien cela et d'autres choses encore. Il revoit l'envergure houleuse de son parrain, alors quasi centenaire, revenant d'un bistrot par la côte de la gare à la nuit tombante. Le vieillard, dans les yeux duquel papillotaient les visions de voyage autour du monde exécutées au temps de la marine à voile ou en bois, comme il disait, et qui entretenait ses souvenirs à l'aide d'une eau-de-vie de cidre, forçant les liens serrés de son mutisme habituel et laissant les rênes à une imagination d'autant plus échevelée qu'elle avait été tenue coite tout au long de l'austère semaine.
J'étais à bord de la belle Cordelière, au large des côtes du Pérou, quand, soudain, la mer fut envahie de barracudas qui sont des espèces de brochets à la denture de cardeuse. Ils chassaient, dans un banc de harengs d'une épaisseur et d'une étendue exceptionnelles. La consistance de cette mer de vinaigre était si dense que nous avions pu aisément descendre à sa surface, comme si, ou peu s'en faut, nous avions pris pied sur la terre ferme. Nous remplissions des paniers de cette manne afin d'améliorer, de varier l'ordinaire, lequel était habituellement constitué de porc ou de bœuf salé, de fèves et de biscuits durs comme le caillou. Les barracudas se lancèrent à l'attaque. Jaillissant du banc compact, ils se précipitèrent sur nous, happant les chairs à travers la rude toile des vareuses. 7 matelots furent ainsi massacrés sur les 50 que comptait l'équipage. Leurs corps, entraînés par les prédateurs, à travers la masse des clupéidés, descendirent, réduits aux seuls ossements, au royaume de Poséidon. Le commandant de la belle Cordelière récita la prière pour les morts, mêlant d'une manière indissoluble les noms des 7 disparus dans l'esprit des survivants alignés sur le pont que fouettait maintenant un vent de tempête.
« Dites-moi, parrain, qu'arriva-t-il ensuite ?»«
Par la suite, le banc de harengs s'enfonça sous le navire et l'eau libre réapparut. » Les brochets de mer nous poursuivirent sur quelques milles. Le commandant s'enferma dans sa cabine pour relater la tragédie sur le journal de bord, tandis que le second commandait la manœuvre pour affronter le proche coup de tabac. Ce fut en réalité l'effroyable mâchoire d'un typhon. Elle nous secoua horriblement pendant 2 jours et 2 nuits, et la belle Cordelière n'échappa que de fort peu au naufrage. Comme si nos 7 infortunés camarades, épars sur les fonds abyssaux, s'attendaient à ce que nous allassions les rejoindre dans l'avenir immédiat.
L'ancêtre à la face de colosse pascuane ne témoignait un peu d'attention qu'à la personne d'un fox terrier approximatif, noir et blanc, et qu'il appelait Kroumir, en souvenir des rivages nord-africains peuplés de minarets chanteurs. Quand il avait fait son plein hebdomadaire de lambic, le vieil homme rentrait à la lune froide des samedis d'hiver. Son vaste chapeau à boucles d'argent, gravé de triskèles et de cercles concentriques représentant l'infini expansé dans les ondes produites par la chute d'une pierre dans une mare, ombrageait son chef, sur lequel croissait encore un vigoureux poil gris coupé ras, presque aussi ras que la barbe soigneusement raclée sur les joues cartonneuses et sèches. Il avançait dans la lumière poudreuse sur la route de la gare. Les haies de ronces semblaient couvertes d'une taie de farine. Il avançait avec des moulinets de bras. Puis il mettait un terme à cette gesticulation désordonnée, la ramenait à quelques mimiques précises, semblant s'adresser à un interlocuteur invisible. Apporter à ce dernier les éléments nécessaires à la compréhension d'un discours aux arcanes particulièrement obscurs. Kroumir se posait alors sur son séant, dans la position exacte du chien prêtant l'oreille avec une attention soutenue devant le pavillon en fleurs de volubilis d'un gramophone, groupe illustrant la vignette des disques « La voix de son maître ». Le record de longévité de Corentin Falroun était égalé, sinon battu, par une femme qu'on ne voyait pour ainsi dire jamais sortir de sa maison dans laquelle elle coulait, en compagnie d'une demoiselle sexagénaire, des heures termitiennes. Madame Kerouanton jalousait la robustesse légendaire du vieux bougre, dont elle entendait vanter les prouesses sabbatiques accompagnées dans la fumée des bistrots du bourg. Elle se tenait la plupart du temps rancognée près de l'âtre, où une flamme indigente dansotait été comme hiver. Elle disparaissait dans les épaisseurs superposées de plusieurs châles. Quand Juillet flamboyait dans la campagne, Aline, sa demoiselle de compagnie, l'installait près du seuil, dans une bergère à roulettes. Elle calait l'antiquité au moyen de coussins, la munissait de sa tabatière et répandait dans son giron quelques boules de gomme qui seraient picorées dans les intervalles d'une conversation passablement décousue. « Il paraît que Corentin s'est encore saoulé hier au soir. » Comme tous les samedis, censément.
Mad, je me demande comment il fait son compte. Quand je pense qu'il a à peine un an de moins que moi, tu devrais m'acheter des bonbons au miel, c'est meilleur pour ma gorge. Et puis, il ne colle pas aux dents comme ceci.
Elle s'enorgueillissait des 5 dents qui lui étaient restées fidèles depuis une grossesse difficile et si ancienne que les traits de son enfant avaient été gommés dans son souvenir. Une fillette d'une 12aine d'années morte du typhus par un août torride du siècle dernier.
Et puis, je les préfère au goût. Les boules de gomme, on a l'impression de mâcher du coton mouillé.
Comme vous voudrez, Anna. Si vous me l'aviez dit avant, j'aurais pu vous en acheter vendredi, quand je suis allé au bourg pour le poisson. La chaleur s'amoncelait en rodomontades infinies de volailles. La lumière pulvérisée sur les pignons faisait trembler des tournebroches d'herbes soufrées où brûlaient des diables. La vieille les voyait danser devant ses prunelles fondantes. Elle grappillait un bonbon étincelant d'éclats de sucre et le glissait dans sa bouche aux 5 dominos sauvés du davier à la suite d'une intervention de l'archange Gabriel lui-même. Sur la route, se découpait le groupe du chien Croumir et de Corentin Falroun avec la fluidité précise des ombres chinoises. Le gramophone à pavillon en fleurs de volubilis n'était autre que le vieil homme à la silhouette quichotesque, les guides de son chapeau flottant dans l'air. Catherine s'approchait du portail, et à travers les harpes de cette construction de fer forgé, dont les deux piliers servaient de socle à des statues de chimères, appelait dans le cornet en porte-voix de ses mains rapprochées, décrivant avec un luxe de détails la succulence des matériaux entrant dans la préparation de la soupe veloutée du soir. Les deux ombres lointaines s'ébranlaient alors avec l'indécision et la note de regret trahie par la lenteur du démarrage. Elles avançaient vers la sonorité du portail. Les lourds nuages, déjà nocturnes, roulaient en silence dans les hauteurs du ciel, se chevauchant et s'étirant pour s'engloutir enfin dans une obscurité plus dense. La grande grille était ouverte. Falroun, encore nonagénaire à cette époque, chapeauté de mélusine, la bouche vaporisant des mots aussi chargés d'alcool qu'un camion de livraison de vin et spiritueux, pénétrait dans la cour, suivi du minuscule animal, comme d'un nabot nègre marchant à 4 pattes et serrant entre ses dents limées les bords de la traîne invisible d'un vaste manteau royal.
Chagrin de mer, je sais des cœurs arrêtés entre le rouge et le vert, Jean et Jeanne sans de pierre. Dans l'amour millénaire, leur chevelure est de roc, comme j'ai douce colère, corde de vent, point de terre, Jean et Jeanne sont de pierre. Dans l'amour millénaire, quarante souffres. Leurs yeux sont de vagues bleues. Le bouge au milieu comme un adieu de travers, Jean et Jeanne sont de pierre. Dans l'amour millénaire, l'amour une main qui trace des nœuds avec l'autre main, efface le temps qui passe, Jean et Jeanne sont de main. Dans l'amour millénaire, au vol de Vigen. Tous de nos points en loin de vos Galen, galen, chope de zao Et trilus dos à glace d'eau Yann Shams and Mengelsau, Carantes Vora, boos van Lena Goch. Droeg je aan deze leesverhalen, door de navel, adorno, Jan Schan, zo mijn verzaal. Caronte zo voor, o voor de wiegen. Je wil pas vivre à dreux sourire, Jan Schan, zo mijn balzaal. Caronte zo vora, Caronte zo'n dorotrice, Skodu oog aan andornal, Deus à dreux aan amsetal, Jan Schan, zo'n bel vachois. Caronte zo vora, over alle wegen, Caronte Svora. Over alle wegen, Caronte Svora. Over alle wegen, Caronte Svora.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Et retour au texte après la musique, à nouveau avec le Falroun de Yves Elewet. Des meubles luisants polis par les ans s'alignaient dans la vaste salle à manger dont une table immense et circulaire occupait le centre. La suspension à l'abat-jour d'opaline bleue jetait des feux ainsi que des flèches sur les angles des buffets à crédence, où toute une faïencerie décorative couvait de la lueur sous une mince taie de poussière. Les couverts d'argent massif étincelaient de part et d'autre des assiettes, dans lesquelles la soupe verte dormait comme un lac volcanique. Corentin Falroun s'asseyait, chapeau en tête. Les longs rubans de velours noir pendant dans son dos se reposant sur la veste de satin à hauteur des épaules. Une bonne traversait l'espace, soutenant le nourrisson dont la tétée élaborait déjà l'imminence des déflagrations intestinales. On le tendait à l'ancêtre, qui d'un pouce trémulant marquait son front d'une croix tandis que les fumées torrentielles de l'eau de vie sortaient avec la bénédiction balbutiée du trou de la bouche enfoncée entre les narines maigres et l'avancée luisante du menton fendu en deux d'un coup de serpe. L'enfanson et l'aïeul représentaient à leur manière les figures jumelles des doscures, rapprochés par le lien étroit des extrêmes, car le temps, avec ses ciseaux à bois et ses gouges, s'apprêtait à sculpter la figure du marmot à la ressemblance de celle du vieillard. La soupe avalée, un plat de lard accompagné de pommes de terre faisait le tour de la table, qui, bien que ronde, était présidée par haut et puissant seigneur Corentin Falroun lui-même. Il siégeait également, outre le vieil alcoolique, la tante Titine et sa poche marsupiale, une grand-mère aux yeux embués, ainsi que les parents du jeune Falroun, couple à la transparence extrême, et qui s'absenta rapidement de la vie à l'occasion d'une promenade en bateau. La légende en retint le départ environné de gaieté sur une mer dont la placidité première devait se transformer vers la fin du jour en une tempête génératrice de montagnes d'eau. Un chat gigantesque, au pelage épais rayé de noir, se glissait dans la salle et d'emblée venait frotter son échine et sa gueule moustachue aux rudes soies du chien Kroumir. Cet animal superbe hantait l'un des greniers, d'où il sortait le soir par un châssis à tabatière bloqué à son plus grand degré d'ouverture. Par ailleurs, les samedis nocturnes, à l'équilibre compromis, pouvaient entendre les planches feutrées résonner sous la marche incertaine du vieux. Il pénétrait dans cet amoncellement tibétain, au point une lampe à pétrole que l'ivresse de son corps au tangage prononcé faisait se balancer comme un feu de position sur un petit navire. Il traversait des régions peuplées de regards invisibles. On ne savait trop où se dissimulaient, derrière des meubles au rebut, des statues d'église, de lourdes statues de bois ou de pierre peintes aux visages éclairés d'yeux énormes, redoutablement fixes. Regard le plus souvent invisible, mais présent. Qu'un rayon de soleil, qu'un rayon de lune traversant la lucarne selon un angle plus ou moins oblique faisait de temps à autre surgir de la pénombre. On pouvait alors assister au réveil d'un cyclope, dont la prunelle apparaissait à l'angle d'une commode derrière le cadran vide d'un cartel. Parfois c'était une paire d'yeux qui soudain se montrait, surmontant une pile de livres ou d'albums remplis de cartes postales en chromolithographie. Cependant, Corentin Falroun, la lampe haute tenue, avançait, en donnant de la bande sous le toit que giflait le vent d'hiver quand c'était l'hiver. La lumière n'arrivait pas, ou à peine, jusqu'aux poutres de la charpente. Un vieux lit très grand était là, près d'un amoncellement d'objets hétéroclites, malles et valises, photographies encadrées, cadres vides, chaises, vases, boîtes de carton contenant des ventouses médicinales, scarificateurs rouillés, etc., etc. Près de la tête du lit, on découvrait une table de toilette sur laquelle traînait un bout de savon de la consistance d'une corne, un pot à eau, et sa cuvette noir de crasse. Dans la cuvette, on trouvait deux ou trois cadavres de ces araignées aux longues pattes velues qui hantent les trous des murs dans les combles. Le vieux s'asseyait sur le bord du lit et, non sans mal, entreprenait d'ôter ses croquenots. Puis massait ses pieds fatigués à travers de fabuleuses chaussettes de laine. Durant qu'il accomplissait ses exercices, le chien Kroumir sautait sur le lit et se dirigeait en droite ligne vers sa place, une sorte de creux assez sale dans la partie basse de l'édredon dégonflé, une espèce de creux dans le satin noirâtre, froissé et tapissé de poils morts. Corentin Falroun extrayait d'une malle d'osier voisine une bouteille de raide dont il s'envoyait en une seule lampée la valeur de trois bonnes gorgées ordinaires. Après quoi, il soufflait dans le verre de la lampe, et la nuit envahissait d'un seul coup la vaste nef bruissante de vent. Falroun se glissait sous l'édredon, en prenant bien soin de ne pas déranger Kroumir, qui, déjà endormi, se plaignait dans son sommeil de vieux chien. Un grand froid se tenait dans le grenier que perçait sourdement la lumière de la lune. Elle coulait par le châssis toujours ouvert. Falroun, tout habillé, à l'exception du chapeau et des chaussures, l'édredon remonté sous les bras et les mains jointes semblait un gisant de tombeau avec sa face aux angles durs et ses doigts de cuir joints par les phalanges. Sous l'arc des sourcils, les yeux d'un bleu liquide restaient longtemps ouverts dans l'ombre, tandis que l'ivresse, ravivée par la longue gorgée d'eau-de-vie, se déplaçait dans la tête qu'elle habitait de bruits confus, bourdonnements, abois, cris, roulements de tonnerre, détonations de vagues déferlantes. Sur l'écran noir, au-dessus des yeux ouverts, des figures s'animaient, se formaient et se déformaient. Sortis des limbes de la mémoire ou provoqués par les effets d'un léger délire. Bientôt, toute la grande pièce se mettait à bouger, imperceptiblement. Les meubles et les objets s'animaient, semblaient se mouvoir, respirer, se distendre, épaissir, comme vus dans une suite de miroirs déformants sans pour autant quitter leur place. Falroun, le vieux, parlait. Ce sont les morts de la ville engloutie. Tous les noyés font sonner les cloches des cathédrales dans la cave. Je les entends à travers les cloisons horizontales et successives des planchers, à travers les caissons d'air que sont les chambres et les salles tristes où tout un mobilier s'ennuie dans le silence. Je sais que d'autres dorment là-dessous, agités par des cauchemars. Françoise, j'ai peur de te retrouver une nuit assise dans la cuisine près du grand fourneau. Il y a tant d'années que tu es morte. Mais il me semble que si je descendais maintenant, je te trouverais là assise comme jadis entre le fourneau et la longue table. Et j'essaierais de te prendre les mains, de t'attirer vers moi, contre moi, mais mes doigts ne rencontreraient que le vide plus impalpable que la cendre. Je passerai mes mains à travers des étoffes de poussière, à travers des chairs inexistantes. Elles se rencontreraient à l'intérieur d'une tête ou d'une poitrine, aux contours vagues comme les bords d'un rayon de lumière qu'occultent les nuages. J'entends sonner les cloches de la ville évanouie au fond de la cave, parmi les pommes de terre germées et les petits monticules que construisent les taupes sur la terre battue. Et dans chaque cathédrale, l'officiant célèbre la messe des âmes, enclose dans la malédiction de la ville. Il suffirait qu'un vivant répond « Amen !» à l'une des horizons prononcées pour que toutes ces âmes soient délivrées et quittent la cité engloutie dans la cave et dans les profondeurs froides de la mer. Elle remonterait des fonds blanches à la manière des communiantes, pareil à des flocons de neige chassés vers le haut par un vent ascendant. La ville elle-même referait surface comme au temps de Gralonne à Enobarbe. Elle brillerait ainsi qu'un joyau à l'Occident et deviendrait la capitale du monde. Ces fortes paroles prononcées à la frontière de la veille et de l'éparpillement dans les galaxies du sommeil, Corentin Falroun, alias Crickson, fils de Crick, devenait le renard gracile des herbes. Il présentait la loterie prophétique où sont décrites les 12 maisons du ciel abscon, avec en prime la possibilité de respirer un instant la grande haleine chthonienne. Un aller-retour, s'il vous plaît, ça fera 3 francs. Grand merci, monsieur. Enfin, le sommeil se laissait tomber sans bruit de la charpente. Il prenait possession du cœur et de l'esprit étendu, si tant est qu'un esprit s'étende, dans l'obscurité. L'ancêtre, cette fois, devenait un pharaon accomplissant dans sa barque funéraire le long voyage que sa bouche continuait à commenter, grande ouverte dans l'air glacial. Ce qui l'amenait en fin de compte à se recroqueviller, tête comprise, sous l'édredon, alors que, depuis longtemps, les yeux avaient été recouverts par les paupières. Le grenier était un grand voilier dont la coque renversée ronflait et bourdonnait à la manière d'un rhombe. Dans le lit que dissimulait un drap tendu sur une corde, le vieux Falroun descendait le fil du courant nocturne. D'anciennes garde-robes contenaient encore les défroques ayant gardé dans leurs plis le souvenir de corps depuis longtemps disparus. On pouvait percevoir le bruit des statues de bois travaillées par les vers. Il arrivait qu'une ombre traversa le rectangle clair de la lucarne. C'était le grand chat. Il rentrait silencieusement, se laissait glisser jusqu'au sol en étirant son corps électrique, suivi par le regard fixe des idoles. On pouvait entendre toute la toiture craquer sous les assauts du vent. Nous avons terminé pour ce soir cette lecture de Falroun de Yves Elewette que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.